Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal Babel Mpongo Massimango.
Madame, Monsieur, bonjour. Dans l'actualité, cette controverse autour des taxes à percevoir avant fin mars dans les secteurs de jeux d'argent, c'est notamment celle d'autorisation d'exploitation pour les opérateurs et celle sur les gains réalisés par les joueurs. Si certains soutiennent la démarche de l'État, d'autres estiment que c'est une tracasserie qui risque de décourager ces entrepreneurs. Dans cette édition aussi, le désarroi des habitants de plusieurs villages du territoire de Sakania dans le Haut-Katanga. La région est en proie aux inondations dues aux pluies. On compte morts et plusieurs ménages sans abri. Serge Kondé, député national élu de Sakania, lance un appel à l'aide. L'attaque au drone qui a fait 3 morts hier dans la ville de Goma, il en a été question hier dans Dialogue entre Congolais. Dans ce journal, les réactions des intervenants. Madame, Monsieur, bienvenue à cette édition du journal. La décision du gouvernement obligeant les opérateurs de jeux d'argent à se conformer aux obligations fiscales suscite des débats dans les casinos et milieux de loterie à Kinshasa. Les tenanciers de ces jeux se montrent divisés. Certains soutiennent la démarche de l'État, tandis que d'autres la qualifient de tracasserie fiscale pure et simple qui, selon eux, risquerait de décourager les entrepreneurs de ce secteur. Blaise Nongala-Mayanda explique ce qu'il en est.
Dans un communiqué daté du 5 mars courant, le ministère des Finances rapporte que toutes les entreprises opérant dans les paris sportifs, les casinos, les loteries, les concours de pronostics et autres activités assimilées sont soumises aux dispositions fiscales applicables à ces secteurs. Ces communiqués précisent que ces opérateurs doivent s'acquitter des 2 catégories de taxes, à savoir la taxe relative à l'autorisation d'exploitation d'une entreprise de jeux d'hasard, et celle appliquée aux gains réalisés par les joueurs. Une décision qui désapprouve la majorité des parieurs rencontrés dans plusieurs casinos de la capitale. L'un d'eux estime que cette démarche du ministère des Finances risque de décourager les sociétés qui emploient de nombreux jeunes.
Je travaille à Winner, je sauve ma vie sur Winner. En fait, la taxe, ça va faire la rechute. Je demanderai à l'État d'en créer encore des emplois pour les jeunes.
À l'inverse, l'un des responsables de la société Ngenge Sport pense que cette mesure permet de renflouer les caisses de l'État en lui donnant les moyens de sa politique.
L'État vit moyennant de ses impôts et de ses taxes. Si une telle décision est prise, ce n'est pas du tout mauvaise.
Les autorités ont fixé au 31 mars 2026 la date limite pour cette mise en conformité. Passé ce délai, les contrevenants s'exposeraient aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur.
Un atelier se tient à Kinshasa en vue d'affermir la protection des consommateurs des produits alimentaires en RDC. Ceci pour améliorer la compétitivité des produits made in DRC sur le marché international. Il s'agit en fait d'un atelier de renforcement des capacités des comités nationaux sur les normes sanitaires et phytosanitaires, les obstacles techniques au commerce et le codex alimentarius qui est le code mondial qui fixe les règles pour garantir la qualité et la sécurité des aliments. Ces travaux de 2 jours ont été lancés hier par le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku. Ils sont organisés par ce ministère en collaboration avec Trademark Africa. Selon le ministre, le respect des normes sanitaires et phytosanitaires est essentiel pour renforcer la confiance des consommateurs, également pour faciliter le commerce international. On écoute Julien Paluku au micro de Grace Amzati.
Je tiens à saluer cette initiative qui s'inscrit dans la dynamique du gouvernement de la République à consolider les capacités techniques et institutionnelles nécessaires à la mise en œuvre effective des engagements commerciaux de notre pays, notamment dans le cadre des différents accords de l'OMC, notamment l'accord sur la facilitation des échanges. Elle vient en complément des avancées majeures enregistrées au niveau mondial à l'issue d'un accord que la RDC a ratifié en juillet 2025, c'est l'accord sur les subventions à la pêche. Alors, dans un contexte, comme je le disais tout à l'heure, dominé par plusieurs crises et une mondialisation croissante, eh bien, les normes sanitaires et phytosanitaires et les obstacles techniques au commerce jouent un rôle déterminant dans la régulation du commerce international. Elles visent non seulement à protéger la santé des consommateurs, des faunes et des flores, mais également à garantir la qualité et la sécurité des produits circulant sur les marchés internationaux et même les marchés nationaux.
Pour sa part, Gladys Kalombola, responsable des programmes de Trademark Africa RDC, explique que cette formation vise à aider la RDC à mieux s'intégrer dans le commerce multilatéral et aussi à devenir un acteur plus compétitif sur les marchés internationaux. Face à la présence au sinistre qui a frappé Béni hier mercredi, c'est un incendie qui a ravagé la salle d'attente et les bureaux administratifs de la régie des voies aériennes à l'aéroport de Mavivi. D'autres bâtiments de service de cette ville de Nord-Kivu ont également été endommagés par le feu. La MONUSCO est rapidement intervenue en déployant ses véhicules anti-incendie pour maîtriser les flammes. Explication avec Martial Papimoukeba.
Selon des témoins, les feux seraient partis de la cuisine d'un restaurant situé dans les bâtiments abritant la salle d'attente, les bureaux de la RVA et d'autres services aéroportuaires. Construit entièrement en planche il y a une dizaine d'années, le bâtiment a rapidement pris feu, facilitant la propagation des flammes et rendant l'intervention des pompiers particulièrement difficile. D'après Abdourahman Ganda, chef de bureau de la MONUSCO à Béni, les équipes de la mission onusienne ont travaillé de concert avec les services du gouvernement congolais afin d'empêcher la propagation du feu vers d'autres installations sensibles de l'aéroport.
Tout le monde s'est mis à peu d'heure. J'en profite pour saluer la collaboration des FARDC, de la PNC, des autorités de l'aéroport. On a pu maîtriser, on a sauvé ce qui a sauvé. Malheureusement, la nature des matériaux de construction du bois a fait que rien n'est resté. Mais il n'y a pas de perte en vie humaine. On a protégé les aéronefs qui sont là. On a protégé le dépôt de carburant.
Les trafics aériens s'est toutefois poursuivi à l'aéroport de Mavivi. Mais la vérification des passagers et le contrôle des bagages se font désormais en plein air dans un aéroport qui disposait déjà d'installations limitées. Béni, Martial Papimoukeba, Radio Okapi.
Nous sommes dans la province du Lualaba à présent. Un éboulement a causé la mort de plusieurs creuseurs artisanaux hier mercredi dans la carrière dénommée Safi, appartenant à une entreprise minière dans la cité de Kakanda, territoire de Louboudi. Des sources locales rapportent que ce site est occupé actuellement par des exploitants clandestins. Ils y travaillent dans des conditions dangereuses sans aucune mesure de sécurité. Pour le moment, les circonstances de cet éboulement ne sont pas connues, mais nous allons revenir sur cette actualité dans nos prochaines éditions. Restant dans la région, Sakania, dans le Haut-Katanga, est en proie aux inondations. Des morts et des sans-abri sont déjà enregistrés dans de nombreux villages de ce territoire. Ce drame survient à la suite des inondations causées par des fortes pluies qui s'abattent sur la zone. Le député national élu de Sakania tire la sonnette d'alarme sur les conditions des sinistrés. Serge Kondé plaide pour une intervention urgente du gouvernement afin de venir en aide à ces sinistrés. Il est joint par Jean Gandou.
Les habitants traversent une situation désespérée causée par des inondations consécutives aux pluies torrentielles et au débordement des rivières Luombwa et Luapula. Actuellement, les villages de Lubanga, de Nongo, Ngaye, Londolo et Ngomalala sont entièrement submergés. À cette catastrophe s'ajoutent des pertes en vies humaines et d'importants dégâts matériels, notamment la détérioration des routes, des ponts, et tranchées. Ces destructions isolent ainsi les habitants des 10 villages du reste des entités administratives du pays. Et nous demandons en toute urgence une aide sociale et humanitaire auprès du gouvernement congolais parce que les habitants de ce coin font partie de la République démocratique du Congo et nous avons besoin de voir l'État mettre la main sur cette situation, sur cette population qui a vraiment besoin de son aide. Nous demandons vraiment que le gouvernement, à travers son ministre des Affaires sociales et humanitaires, dépêche une équipe en toute urgence parce qu'ici nous parlons des vies humaines.
Retour dans la capitale, la mobilité urbaine devient de plus en plus difficile entre les communes de Bumbu et Ngiringiri dans le centre de Kinshasa. Plusieurs axes routiers stratégiques de cette zone connaissent une dégradation avancée, compliquant le quotidien des automobilistes, motocyclistes et piétons. Plusieurs chantiers routiers sont en cours d'exécution, mais pour les habitants, cela prend du temps. J.R. Kabamba explique.
Sur la direction Chaba, notamment entre l'avenue Panzi et Lukula, un important nid de poules persiste depuis plusieurs années sans intervention visible des autorités de la ville. Cette situation ralentit considérablement la circulation et provoque régulièrement des embouteillages. Pour contourner ces points critiques, de nombreux usagers empruntaient habituellement l'avenue Asosa, une route alternative qui s'est fortement dégradée elle aussi. C'est notamment entre les avenues Panzi et Kwilu. Les tronçons est aujourd'hui presque impraticable et nécessite, selon certains conducteurs, l'utilisation des véhicules tout-terrain pour y circuler sans difficulté. La situation s'avère plus compliquée avec la fermeture pour travaux de plusieurs autres axes importants, notamment les avenues Gambela, Birmanie et 24 novembre. Ces voies permettaient de contourner les routes à problème. Face à cette situation, les habitants de ces communes appellent les autorités urbaines à intervenir rapidement afin de réhabiliter ces routes et rétablir une circulation fluide sur ces axes jugés stratégiques pour la mobilité dans cette partie de Kinshasa.
Nous sommes en Ituri et sur un temps ferme, la coordination provinciale de la société civile du Congo exige le départ urgent des forces ougandaises de l'UPDF déployées dans cette province. Dans une déclaration faite à la presse hier mercredi, cette structure citoyenne estime que l'armée ougandaise, pourtant venue appuyer les FARDC dans les opérations contre les groupes armés nationaux étrangers, n'a pas démontré son efficacité sur le terrain. La société civile cite notamment l'opération en cours contre le groupe armé Convention pour la Révolution populaire, CRP, menée par les FARDC, sans l'appui de soldats ougandais, alors que ces derniers sont basés dans la région de Boulé, considérée comme le quartier général de ce mouvement rebelle. Pour ce faire, la coordination provinciale de la société civile du Congo donne un ultimatum de 2 semaines à l'armée ougandaise pour quitter l'Ituri, faute de quoi elle promet d'organiser des actions citoyennes pour pousser le gouvernement à répondre à cette demande. On écoute Samuel Ouketi, coordonnateur provincial de la société civile du Congo, au micro de Martial Kizabiamungu.
Les FARDC viennent de mener, ça fait déjà, ça file sur un mois, un combat de grande envergure avec la CRP aux alentours de Centre-Boulin. Et aujourd'hui, ils sont encore là. Mais où est la force de mutualisation? Et de deux, pas plus qu'à l'heure où nous sommes en train de parler, toujours en territoire de Ndjougou, dans un village bas, on vient lâchement d'abattre nos compatriotes, des milieux où UPDF est censé être. Alors là, qu'est-ce qu'on va dire? À Mahagi, il y a des dérapages que les militaires de UPDF se sont entretués. Et pour quelle raison? Pour raison, je ne sais pas moi, des femmes ainsi de suite. Est-ce que c'est pour ça qu'ils sont venus? Nous faisons beaucoup plus confiance à la MONUSCO, qui est aux côtés de nos FARDC jour et nuit. Vous savez que pour raison de rassurer à la population que la vie est en Djougou, la MONUSCO a même construit tout un camp. Et ils sont visibles partout. Ils interviennent même aux côtés des FARDC. Alors pour nous, la position est telle que nous avons pris à leur accordant 2 semaines. Nous voulons obtenir leur départ parce que nous ne pouvons pas continuer à supporter ça.
Nous n'avons pas pu avoir la réaction de l'armée à ce sujet. La femme, toujours à l'honneur en ce mois de mars, nous allons découvrir une qui se distingue par son travail. Il s'agit de Vanessa Kaniki, femme cordonnière dans le Nord Kivu, et son credo, sortir des chantiers battus pour devenir actrice du changement. Pour cette cordonnière établie à Goma, le développement de la RDC passe par l'audace féminine. À l'occasion de ce mois dédié à la promotion des droits des femmes, elle invite ces dernières à ne plus se contenter de reproduire l'existant, mais à oser l'innovation pour répondre aux défis du quotidien. Rosalie Sawadi l'a rencontrée en plein travail dans son atelier au quartier Imbi.
Entre les odeurs des cols et des cuirs, Vanessa Kaniki apprête ses outils de découpe pour préparer ses prochaines sandales. De bonne humeur, dans sa tenue noire de travail, elle ne cache pas sa fierté d'avoir choisi ce métier.
Quand j'arrive quelque part et que je dis voilà, je suis Vanessa Kaniki et je suis cordonnière professionnelle. Vous-même, quand vous écoutez, ça attire beaucoup plus d'attention. Et moi, je dis bon, voilà. C'est déjà ce que je gagne parce que je suis dans un domaine où si on doit chercher une subvention ou un financement et que nous sommes toutes des femmes, même si on est à 100 et qu'on doit présenter des projets, quand je vais présenter mon projet sera unique. Et pour moi, ça, c'est un grand avantage. Au début, je ne le voyais pas comme ça, mais à un moment, je me suis rendu compte que c'était très intéressant.
Si ces sandales voyageaient autrefois à travers tous les pays, la guerre a durement freiné l'élan de son entreprise. Aujourd'hui, face à la baisse des ventes, Vanessa Kaniki demande aux habitants de Goma de consommer les produits locaux pour soutenir la résilience des entrepreneurs dans la ville qui essayent de survivre malgré la crise. Goma, Rosalie Zawadi. Radio Okapi.
Une autre femme que nous allons découvrir dans ce journal est Madame Michou Mitongu. Elle, c'est une femme peintre. Mariée, mère de 3 enfants, Michou Mitongu exerce son métier depuis 2003 après ses études universitaires à l'Académie de Beaux-Arts de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Esther Dalafina a échangé avec cette autre femme d'exception. Elle nous propose son portrait.
Michou Mitongu est une femme artiste peintre vivant en Mbujimayi au Kasaï oriental. Pour exercer son métier, Michou est deux fois contrainte de monter sur une échelle pour rafraîchir le mur d'une maison ou d'un bâtiment. Elle dit être fière.
C'est un métier que je voulais vraiment que je puisse monter aussi aux échelles. Je voyais les papas en train de monter aux échelles. Je me disais, mais moi aussi, je suis capable de le faire.
Sur place en Mbujimayi, Michou a déjà mis la peinture sur des bâtiments, des entreprises et dans quelques maisons résidentielles. Le professionnalisme de cet artiste peintre lui a permis d'obtenir certains marchés auprès des grandes entreprises.
J'ai beaucoup travaillé dans des brousses au village, Kabinda, à Ngandangika, à Luebo, avec RTL, qui est mon partenaire principal, avec aussi la CNSS, avec la DGRAD.
Michou Mitongou n'est pas limité. Son rêve est de se professionnaliser dans d'autres métiers, dont le carrelage.
Je me suis même allé à l'INPP faire des formations en bâtiment, en carrelage et en plomberie. Donc maintenant là, j'ai déjà eu des marchés.
Michou Mitongou déteste de vivre la main tendue. Elle encourage les autres femmes à apprendre le métier pour être autonome. Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Afrique du Sud, un mois après que le président Cyril Ramaphosa a annoncé leur déploiement pour lutter contre les gangs qui sévissent dans la région du Grand Johannesburg, des soldats se sont déployés hier mercredi pour soutenir les efforts de la police dans la lutte contre la criminalité. Une douzaine de véhicules de soldats armés et en uniforme appuyés par la police ont procédé à des fouilles maison par maison tout en posant des questions sur la présence des drogues et d'armes. Le taux de criminalité élevé en Afrique du Sud comprend en moyenne 60 meurtres par jour, rapporte africanews.fr.
L'invité.
La ville de Goma a été touchée hier vers 4h30 par deux frappes de drones dans le quartier Katindo. Ces frappes ont causé des dégâts matériels et humains. Selon un communiqué de la MONUSCO publié hier, le bilan est de 3 morts, un membre des Nations Unies et 2 civils. Les intervenants dans l'émission Dialogue entre Congolais d'hier ont analysé cette attaque qui intervient au moment où les appels se multiplient en faveur du respect de ce cessez-le-feu. On les écoute au micro de Guimaté.
Il défense Bouakianakazi, vous êtes chercheur à Ibouteli, vous êtes gestionnaire des données du baromètre sécuritaire au Kivu. L'AFC-M23 accuse le gouvernement de Kinshasa d'avoir lancé cette attaque, chose que Kinshasa n'a pas encore confirmée jusque-là. À votre avis, à qui pourrait profiter cette attaque dans les contextes du moment?
Alors, si on voit par exemple les indices, bon, en voyant le déroulement des événements, les différentes attaques que j'ai pu signaler qui sont passées dernièrement, en fait, on serait tenté, peut-être quelques indices seraient vraiment du côté des fascistes qui profiteraient peut-être du côté du politique de Bouyad, par exemple, qui ne serait pas aujourd'hui installé sur la ville de Goma et profiter de et voir comment fragiliser ou mettre peur du côté du camp opposé. Et donc, c'est ce que pour moi, je disais, je me dis, en voyant la succession des événements, on peut se tenter de dire que bon, c'est ce que les fascistes aurait plus intérêt à mettre plus de fer du côté opposé. Et à ce moment-là, peut-être que ça peut fragiliser de plus en plus la position de M23.
Johnson Ishara, Boutara Gaza, vous êtes acteur engagé de la société civile du Nord Kivu, coordonnateur national de la dynamique Génération Consciente. Vous êtes également chercheur en gouvernance sécuritaire et politique, activiste pour la démocratie, la bonne gouvernance et les droits humains. Vous, en tant que société civile, quelle est votre compréhension de cette attaque des drones dans la ville de Goma ce matin?
Oui, monsieur Guy. Tout ce qui est en train de se passer à Goma et aux environs, je pense que c'est une zone qu'on peut appeler une zone en guerre. Et il y a des événements qui se passent et qui ne peuvent plus surprendre parce que de toutes les façons, de part et d'autre, on a des forces gouvernementales qui ne sont plus dans ces zones-là et que ceux qui y sont imposent leur manière de faire. Et que l'histoire des guerres, monsieur Guy, vous devez savoir que l'histoire des guerres a comme leitmotiv la manipulation de masse, parce que toute la communication autour de ce qui se passe réellement, je vais inviter mes compatriotes à ne pas toujours se fier à ce qui s'est dit, il faut plutôt se fier à ce qui n'est pas dit. Et ce qui n'est pas dit, c'est ce qui nous intéresse. Mais il faut retenir quand même qu'un élément majeur, ce qui, de part et d'autre, on peut affirmer qu'il y a eu des drones qui ont largué des bombes sur la ville de Goma. Et encore que ce quartier, c'est un quartier résidentiel. J'ai rappelé encore sur ce micro que même l'endroit qui a été bombardé, c'est un quartier que je maîtrise très bien. C'est une maison, une parcelle qui peut être à 100 mètres de la résidence d'ancien président de la République, qui est sénateur à vie, jusqu'à preuve du contraire, et que cette parcelle avait l'habitude de loger, de faire loger l'actuel président de la République. Quand il est de passage à Goma, c'est cette résidence-là qu'il avait l'habitude. Il avait l'habitude, bien entendu, parce que ça fait déjà plus d'un an qu'il ne sera pas à Goma. Il avait l'habitude de prendre son repos là-bas. Alors, cela soulève, c'est comme un arbre maintenant qui cache la forêt quand on entre dans la profondeur. Mais la profondeur ici, il faut admettre que ça soit les forces armées de la République démocratique du Congo, on a des drones, qui ça soit le 1-23, avec tous les rapports que les experts des Nations Unies ont y a publié, ils ont des drones. La bonne question était de savoir qui s'est révisé dans ces bombes qui ont été larguées.
Professeur Pierre Virgence, vous êtes politologue et professeur dans les universités de Liège en Belgique et de Gaben à Butembo en RDC. Les deux parties semblent réticentes quant à ce qui concerne le respect du cessez-le-feu. Professeur, quels bénéfices les deux parties pourraient tirer, n'est-ce pas, d'une situation caractérisée par les hostilités?
Donc, je pense que c'est clair que le M23 a intérêt à continuer à utiliser les territoires qu'il utilise pour enrichir le Rwanda. Donc, c'est des minerais qui vont directement dans les mains des Rwandais. Et du côté congolais, il ne faut pas oublier, Ildefonso vient de le rappeler, il va y avoir des élections en principe en 2027. Oui, tout à fait. Et donc, ces élections, c'est clair que si le président se présente ou un candidat issu du camp présidentiel, ça dépend s'il réussit à changer la constitution ou pas, c'est un autre débat. Mais donc, si le camp présidentiel présente quelqu'un aux élections, eh bien, à ce moment-là, effectivement, ils ont intérêt à pouvoir présenter un bilan positif, c'est-à-dire que montrer qu'ils ont bien défendu la terre congolaise.
Vous pouvez suivre l'intégralité de ce numéro de dialogue entre Congolais sur www.radiokapi.net et sur toutes les plateformes numériques de Radio Okapi. Voilà qui met fin à ce journal préparé par Lievin Mwinga, mis en onde par André Mongo. Merci de nous avoir suivis. Excellente journée.